Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité. Par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales. Et son complice, Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Renaud, donc aujourd'hui nous entamons la suite de notre deuxième phase d'émission sur la crise du Covid-19. Alors nous sommes toujours en pleine période de déconfinement puisque nous venons de passer dans la phase 2 au moment où nous enregistrons. Et nous nous proposions dans cette suite de la série consacrée à la crise sanitaire d'évoquer l'après-crise. Et nous étions depuis la semaine dernière sur la question des emplois et des salaires.
Tout à fait, et tu m'avais aiguillé vers les inégalités hommes-femmes. Nous avions terminé par un audio d'une économiste qui mettait en parallèle le type de profession qui a été en première ligne durant ce confinement, à savoir les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, etc., et les inégalités salariales hommes-femmes. Et je t'avais proposé de redémarrer là-dessus avant de réélargir à la question plus générale des inégalités de salaire.
Tout à fait, c'est bien ça qu'il s'agit.
Je voudrais juste revenir sur un chiffre. Tu avais dit qu'en moyenne, en France, les femmes ont un salaire 25% inférieur à celui des hommes. Alors, à ma connaissance, le chiffre précis, c'est 27%, mais 25 ou 27, fondamentalement, la différence n'est pas énorme. Dans les deux cas, il y a une inégalité qui est criante.
Absolument.
Et je voulais juste revenir sur ce chiffre, parce que, en fait, il est très intéressant à décortiquer ce chiffre. Donc, en moyenne, en France, la masse des salaires reçus par l'ensemble des femmes qui travaillent est 27% inférieure à la masse des salaires reçus par les hommes. Alors la question est-ce que ça, c'est la marque, c'est le symptôme d'une discrimination subie par les femmes? Et là, les choses sont un peu compliquées. Alors bien évidemment, mon propos ne va absolument pas d'être de dénier qu'il existe une discrimination salariale faite aux femmes, et d'ailleurs, on va la mesurer en fait, mais elle n'est sans doute pas directement, en tout cas, à la hauteur de 27%. Pourquoi? Premièrement, parce que les femmes, et alors évidemment on va s'expliquer après, parce que si quelqu'un coupe la phrase qui suit que je viens de dire et la sort du contexte, évidemment on me taxera d'affreux machistes réactionnaires et on aura bien tort, mais les femmes travaillent moins que les hommes. Voilà, c'est un constat objectif et je suis absolument désolé de le rappeler.
Là forcément il va falloir que tu éclaires nos auditeurs sur le sens que tu as voulu donner à cette phrase.
Exactement. Les femmes, quand elles travaillent, travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes, puisque environ 9 emplois sur 10 à temps partiel sont des emplois pris par les femmes. Et quand elles travaillent à temps plein, elles réalisent beaucoup moins d'heures supplémentaires que les hommes. Donc ça, c'est un constat statistique et objectif. Si on compare uniquement les salaires reçus à temps de travail égal, la différence est aussi aux alentours de 20% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc ces 7%-là s'expliquent objectivement du point de vue des entreprises, parce qu'il est normal que quelqu'un qui travaille moins soit moins rémunéré. Après, et c'est là où je ne veux surtout pas qu'on me considère comme un affreux machiste réactionnaire, bien évidemment que le fait que les femmes travaillent moins est indirectement la conséquence d'une discrimination que subissent les femmes.
Oui. Je suis désolé de t'interrompre, mais j'aurais juste une question. Est-ce que tu veux dire par là que les femmes sont payées 27% de moins sur la base d'un salaire mensuel? Et que si on rapportait par exemple ce qu'elles sont payées au tarif horaire, on retrouverait une espèce de semblant d'équité?
Non, alors en fait la différence resterait de 20%. Voilà.
C'est
si tu prends à temps de travail égal, la différence s'élève à 20%. Voilà. Donc, d'accord, pour dire les choses autrement, énorme. Le salaire horaire des femmes, donc ça reste énorme, bien évidemment. Un peu moins énorme que les 27, mais ça reste énorme. Mais on va encore décortiquer ces 20%. J'ai pas complètement terminé. Mais juste, pourquoi les femmes travaillent moins? Elles travaillent moins, d'une part, parce qu'elles subissent une discrimination au sein des ménages qui les amène, par l'intermédiaire de normes sociales qui viennent d'un ancien monde, à continuer à préférer les temps partiels pour certaines d'entre elles, pour regarder les enfants. Et puis, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que comme il y a une répartition inégale des tâches au sein des couples, eh bien effectivement, les employeurs mettent un plafond de verre qui fait que les femmes ont plus de difficultés à obtenir les emplois qui impliquent le plus d'heures, le plus d'heures. Quand un employeur doit donner des heures supplémentaires à un de ses salariés, bah, c'est plus simple sans doute de le donner à un homme à qui il suffira de passer un coup de fil à sa femme pour lui dire tu t'occuperas des enfants de ce soir que de le donner à une femme.
Il y a aussi la crainte de voir la personne tomber enceinte, etc., ce qui peut pas arriver à un homme. Bon, enfin, on connaît tous toutes ces raisons-là, voilà. On les a toutes vécues, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs.
Exactement. Donc mon propos n'est absolument pas de les justifier ou de les légitimer, mais je dis juste qu'objectivement parlant, voilà, cette inégalité, cette discrimination que subissent les femmes dans le monde domestique, en fait, se retrouve dans le monde du travail. Mais du point de vue de l'employeur, là-dessus, on ne peut pas en tant que tel le critiquer, de dire à quelqu'un qui est à temps partiel, tu vas te verser un salaire mensuel moindre que celui qui est à temps plein.
Voilà. D'accord.
La deuxième chose, donc il reste 20%. Donc sur ces 20%, il y a encore une partie qui est objectivable, même si là aussi, elle va être la conséquence indirecte d'une discrimination. Cette deuxième partie objectivable, c'est celle qui est liée au type d'emploi effectué par les hommes et par les femmes. Ouais. Les femmes sont surreprésentées dans les emplois d'employés, dans les emplois de caissières, de secrétaires, etc. Et les hommes sont surreprésentés dans les emplois de cadres, de dirigeants. Et forcément, cela se répercute sur les rémunérations. Comme les femmes sont surreprésentées dans les métiers les moins socialement valorisés et les moins rémunérés, leur salaire horaire est automatiquement inférieur.
Néanmoins, par rapport à ça, je rebondis un petit peu sur ce que disait l'économiste que nous avons écouté la semaine dernière, il reste un problème, c'est-à-dire qu'à qualification égale, il subsiste néanmoins toujours des différences qui ne sont pas acceptables. Tu évoquais les différences qui existent entre les métiers exigeant peu de qualifications dans lesquels les femmes étaient surreprésentées. Alors certes, ça voudrait dire que globalement, les femmes seraient moins qualifiées que les hommes dans le monde du travail. Mais il reste quand même, pour des emplois à qualification égale, et on pourrait par exemple très bien, dans cet ordre d'idées, comparer les caissières aux éboueurs par exemple. J'imagine que chez les éboueurs, il y a davantage d'hommes et que, tout le monde le sait, il y a davantage de femmes chez les caissières. Si ces deux métiers étaient sur des qualifications équivalentes avec des charges de travail physique et mentale équivalentes, on pourrait s'imaginer à ce que les femmes soient autant rémunérées que les hommes. Or, il me semble que là-dessus subsistent de grosses différences.
Alors, il y a plusieurs choses différentes dans ce que tu dis, donc je vais essayer de les reprendre une à une. La première, tu compares les éboueurs et les caissières. Enfin, caissière ou caissier. Hein, bon.
Enfin, je dis les éboueurs, j'aurais pu dire les ouvriers qualifiés les usines d'assemblage, par exemple.
Oui, mais c'est un exemple très intéressant. Parce qu'on peut considérer aussi qu'être éboueur implique des qualifications ou implique des conditions de travail ou implique une pénibilité du travail qui est considérée, alors, qui est socialement considérée. Après, on pourrait être dans un monde qui a des normes sociales différentes, mais qui est socialement considéré comme plus difficile qu'être secrétaire ou caissière, et donc par extension, dont la rémunération supplémentaire serait légitimée par ça. Non, ce qui serait intéressant, c'est de regarder à métier équivalent. C'est-à-dire, est-ce qu'un caissier gagne la même chose qu'une caissière? Est-ce qu'un secrétaire gagne la même chose qu'une secrétaire à qualification équivalente? Ça, je vais en reparler.
Alors,
juste après.
Je vais en reparler juste après. Permets-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec toi, Renaud, parce que la loi Yvette Roudy, justement, se garde bien de faire ce type de comparaison entre les hommes et les femmes au sein d'un même métier. On parle bien de qualification et de charge physique et mentale équivalente. Donc, à ce titre-là, on est tout à fait en mesure de qualifier, de comparer des métiers. Et c'est bien ça ce que les féministes d'aujourd'hui recherchent. C'est rétablir une équité là où elle n'existe pas parce qu'on parle de métiers différents. Et c'est selon ces personnes... un prétexte. qui justifie les différences de salaire.
Je suis entièrement d'accord avec toi et ta remarque est tout à fait pertinente. Sauf que là, on est sur un terrain qui est un peu glissant, qui est le terrain de la subjectivité. C'est-à-dire, dans quelle mesure puis-je considérer que le travail d'un éboueur est comparable au travail d'une secrétaire ou d'un secrétaire et que donc, par extension, je peux considérer que la qualification est équivalente et que les rémunérations devraient l'être. C'est compliqué.
C'est compliqué, sauf s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les métiers entre eux ou non. Et c'est bien ce que demande la loi Rudy de 1983, c'est d'être en mesure de comparer les métiers entre eux sur des indicateurs très précis, que sont le diplôme obtenu, la qualification, la charge physique et mentale, etc. Et ça, ils doivent exister, ces indicateurs.
Donc je vais directement aller au final, mais après on reviendra un peu en arrière. Et donc, là où tu as entièrement raison, Eric, c'est que si tu prends deux personnes, un homme et une femme, qui travaillent exactement le même nombre d'heures dans des métiers dont les qualifications sont considérées comme identiques, eh bien, la différence reste aux alentours de 10%. C'est-à-dire qu'il y a 10% qui ne sont absolument pas objectivables, qui ne sont absolument pas justifiables, voilà, en aucune mesure. Le reste, ça peut s'expliquer, même si on peut le combattre, même si on peut considérer que c'est la conséquence indirecte d'une discrimination faite aux femmes. Mais ces 10%-là n'ont aucune sorte de justification, sauf le fait que nous vivons encore dans un monde où nous considérons collectivement, j'aime bien répéter ça, nous considérons collectivement, parce qu'il faut bien l'admettre, nous considérons collectivement que les femmes doivent être moins bien rémunérées que les hommes. Alors, ça doit être combattu, ça doit être pointé du doigt, il doit y avoir des lois et des contrôles qui doivent faire en sorte que les choses ne soient plus ainsi, mais voilà, ça, il n'y a aucune justification économique, aucune rationalisation à ces 10%.
Très bien.
Et juste, je voulais revenir sur un point, tu disais tout à l'heure, les femmes ne sont pas moins qualifiées que les hommes. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question, mais là aussi, je voudrais qu'on ne coupe pas la phrase qui suit, là, que je vais dire, pour la sortir de son contexte. Je voudrais aller au bout de ma phrase. Si tu prends la qualification moyenne des femmes aujourd'hui sur le marché du travail, elle reste inférieure à celle des hommes, tout simplement parce que actuellement sur le marché du travail, il y a encore des femmes qui aujourd'hui ont 50, 55, 60 ans, qui viennent d'un monde où les femmes faisaient moins d'études que les hommes. Donc si tu prends la moyenne de l'ensemble des femmes et de l'ensemble des hommes, oui, la qualification des femmes reste un peu inférieure. C'est plus du tout le cas des jeunes générations. Voilà. Donc cette différence, elle va progressivement disparaître.
Encore que, Renaud, tu dis que ce n'est plus le cas des jeunes générations, je serais moyennement d'accord avec toi, puisque toi, comme moi, travaillons dans l'éducation, et nous savons très bien que les filles s'auto-censurent pour aborder certains types de carrières, et notamment les métiers scientifiques restent très largement ouverts aux hommes, et il y a une espèce d'auto-censure des femmes elles-mêmes pour ne pas se diriger vers des métiers qui sont plutôt considérés comme des métiers d'hommes.
Tout à fait. Alors là, je parlais de qualification globale, c'est-à-dire si on compare, par exemple, le niveau d'études. Mais effectivement, les femmes vont avoir en moyenne un bac plus 3, mais plutôt en littérature ou plutôt en communication, et les hommes vont avoir un bac plus 3 plutôt dans des métiers, effectivement, scientifiques.
Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi regarder un petit peu ce qui se passe dans les métiers de l'éducation. Toi et moi sommes des hommes, mais nous savons que les femmes sont majoritaires dans les métiers de l'éducation. Or, ce sont des métiers qui sont en pleine dévalorisation salariale. Alors, c'est peut-être pas directement en rapport avec le fait qu'il y ait davantage de femmes, mais il y a quand même quelque chose aussi qui peut sembler un petit peu étrange de ce côté-là.
Oui, et puis si tu veux que l'on parle éducation, Eric, et je vais te parler de choses que tu connais aussi, effectivement, les femmes sont surreprésentées dans les métiers de l'éducation, sauf que si tu prends les agrégés, par exemple, eh bien, cette surreprésentation n'existe plus, c'est plutôt les hommes. Si tu prends les profs de prépa, eh bien, ce sont plutôt des hommes. Si tu prends les personnels de direction, statistiquement, ce sont plutôt des hommes, et cela n'est pas la conséquence du fait que les hommes soient intrinsèquement meilleurs que les femmes dans l'éducation, c'est intrinsèquement, comme tu l'as très bien dit, la conséquence d'une autocensure des femmes, en tout cas d'une norme sociale qui fait que les femmes d'elles-mêmes se projettent moins vers... Alors, quand je dis se projettent moins, statistiquement et collectivement. Il y a évidemment des exceptions au niveau individuel, mais se projette moins. Et alors, juste à ce sujet, si tu veux, je vois qu'il nous reste quelques minutes, donc on va finir sur ce sujet-là. Mmh. Et puis on parlera des inégalités salariales plus largement la prochaine fois. Je voudrais te parler de quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interrogé en tant qu'enseignant de sciences économiques et sociales, donc de sociologie. J'enseigne dans une classe préparatoire qui s'appelle la classe préparatoire BL, qui mène au concours des écoles normales supérieures. Il se trouve que comme c'est une classe préparatoire de type littéraire, nous accueillons très majoritairement des filles, et sur l'ensemble du territoire français, il y a environ entre les deux tiers et les trois quarts des étudiants de BL, donc de ceux qui vont passer le concours des ENS, qui sont des filles. Lorsque nos étudiants passent leur concours, c'est anonyme. Et en gros, je fais partie d'une association qui a fait des statistiques, donc sur les 10 dernières années, en gros, quand tu prends la part chez les admissibles, c'est-à-dire sur ceux qui vont aller à l'oral, des hommes et des femmes, on a une structure qui est à peu près équivalente à la structure des étudiants. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, on a entre les deux tiers et les trois quarts des admissibles qui sont des filles, et entre un tiers et un quart des admissibles qui sont des hommes, ce qui est normal, puisque finalement, ce n'est que la reproduction de la structure des candidats.
Très bien.
Par contre, une fois les euros passés, il y a une surreprésentation massive des hommes et une sous-représentation des femmes.
Tout simplement parce que l'anonymat a été levé.
L'anonymat, voilà, a été levé. Donc, est-ce que c'est que les femmes sont moins bonnes que les hommes? Sans doute pas. C'est peut-être que les jurys ont des représentations. Et moi-même, en tant que jury, quand je vois un jeune homme charismatique, brillant, peut-être que je vais être, parce que j'ai été socialement prédéterminé à ça, plus subjugué que exactement la même prestation d'une jeune femme pour qui je vais trouver un peu de naïveté, un petit peu de... Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne valide absolument pas ça, bien évidemment. Mais effectivement, nous sommes entourés de normes sociales qui sont des normes discriminantes envers les femmes, puisque ça fait des siècles et des siècles que ces normes existent. Et il est important de les désinvisibiliser, ces normes, et de les pointer du doigt systématiquement, puisque c'est la seule manière de faire en sorte qu'elles disparaissent progressivement.
Très bien. Bon, écoute, Renaud, nous essayons la plupart du temps d'être le plus objectif possible, mais la défense de la cause des femmes ne permet pas cela. Je pense qu'il faut qu'on s'engage tous, les uns et les autres, massivement, en faveur de la lutte contre ces inégalités.
J'irai encore plus loin que toi, Eric. C'est parce que nous sommes objectifs que nous épousons la cause de la lutte contre les discriminations faites aux femmes. C'est parce que objectivement on peut les mesurer, ces discriminations, qu'on ne peut plus les accepter.
Voilà.
C'est pas simplement une idéologie, il faudrait que les femmes que... C'est mesuré. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est inacceptable. Et comme toute chose inacceptable, elle doit être combattue. Et je sais que, Eric, tu partages avec moi, effectivement, le même souci de lutter contre toutes ces discriminations. On a parlé des femmes aujourd'hui. On parlera aussi des discriminations faites envers les ethnies, envers certaines couleurs de peau. On pourrait éventuellement, même si j'ai pas de statistiques précises dessus, parler des discriminations faites envers l'orientation sexuelle ou l'orientation religieuse.
Si ça peut être l'occasion de nous enflammer à nouveau, eh bien, je te suivrai avec plaisir dans cette voie. J'avais un petit fichier audio pour toi, mais je te le ferai écouter en tout début d'émission prochaine, parce que je crois que ça introduira bien la suite. Je te dis donc à la prochaine.
Eric, et je suis désolé, Eric, parce que j'étais tellement emporté par cette émission que j'ai complètement oublié de te laisser un petit espace pour l'audio du jour, que pourtant j'apprécie énormément, mais
écoute,
on s'est laissé emporter.
N'est absolument pas grave, Renaud, le suspense n'en est que plus important. Surtout qu'il s'agira d'une petite devinette pour toi dès le début de l'émission prochaine. Je te dis donc, au revoir.
À la prochaine fois, Eric. Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.